J'ai tendance souvent à comparer le Togo au Gabon. Et vous savez, quand on parle de dynastie présidentielle, voire monarchique en Afrique, on prend en général le Togo en Afrique de l'Ouest et le Gabon en Afrique centrale. Ce sont les deux seuls pays, les deux seuls pays francophones pour l'instant où on passe le pouvoir de père en fils depuis 1963 pour le cas du Togo et beaucoup plus longtemps pour le cas du Gabon. Donc, effectivement, dans cette perspective-là, il faut s'expliquer, il faut simplement chercher à comprendre pourquoi est-ce que ce pays, contrairement à l'ensemble des 15 autres pays de l'Afrique de l'Ouest, est le seul à pouvoir se comporter de cette manière. Et là, on peut faire appel évidemment à la nature particulièrement féroce du régime dictatorial de feu Yadema et qui a donné un héritage à son fils, un régime qui lui a permis d'avoir une armée quasi clanique où presque 99% des officiers sont de la même ethnie, de la même région, dans le meilleur des cas, et qu'en conséquence, les marges, les espaces de réalisation démocratique sont très, 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 très réduits. Et les Togolais, donc l'histoire du politique du Togo est une histoire de conquête progressive, de plus d'espace démocratique et de plus de liberté, etc. Donc c'est cette lutte qui semble relativement longue par rapport au point de départ. Effectivement, on est bien obligé de constater qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina, etc., ont connu des régimes beaucoup moins violents que celui de Yadema. Donc, c'est l'un des facteurs les plus importants. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une grosse avancée. Le fruit est quasiment mûr. Pour une fois, nous avons un début de capitulation du régime en place, parce que jamais par le passé, on aurait imaginé une assemblée nationale togolaise à la botte du régime accepter de suspendre, enfin de clore une assemblée extraordinaire, d'en ouvrir une autre sous la pression de l'opinion. Donc on est, quoi qu'on dise, dans une évolution plutôt positive.
On sait que l'alternance démocratique au sommet de l'État est une réalité au Bénin depuis le début des années 90. Au Burkina Faso, à la faveur de la révolution d'octobre 2014, voilà, on a connu également une alternance démocratique. Au Ghana, c'est également une culture, l'alternance. Est-ce qu'on peut espérer qu'avec ce vent nouveau qui souffle en ce moment au Togo, et eh bien que le pays puisse également humer l'ère démocratique?
Non, mais écoutez, il y a deux possibilités. Ou alors le régime en place capitule dans la négociation et à ce moment-là, on connaîtra une alternance douce. Ou alors elle voudra rester crispée et je pense que la détermination du peuple aujourd'hui va conduire à une alternance dans la violence. Voilà. Et je pense que personne n'a intérêt à ce que cela se fasse dans la violence. Je pense simplement que les responsables togolais du régime actuel ont tout intérêt à faire preuve de clairvoyance, de capacité à anticiper, d'écoute du peuple et d'organiser une sortie plutôt douce.
Oui, le
Sinon,
président.
il n'y a que deux solutions, ou elle est violente ou elle est pacifique.
Oui, le président Florian
Il n'y a pas de
Simbé.
solution intermédiaire.
Oui, le président Florian Simbé a quand même lâché du lest, non, en inscrivant à l'ordre du jour de la prochaine session extraordinaire de l'Assemblée nationale qui s'ouvre demain, et cette session va discuter
Oui,
de ces
c'est bien de ça
réformes.
que je parle. Oui, c'est une capitulation, mais ça n'est pas ce que veut le peuple togolais. Il est évident qu'aujourd'hui, tout le monde sait que les cris qui remontent de la population, c'est le départ. Et si vous avez fait attention, le test qui a été introduit n'est pas un test qui demande le départ de force. Et évidemment, les élites, en tout cas une certaine partie de l'élite, considère qu'on ne peut pas lui demander de partir tout de suite. Donc, en conséquence, l'obtention de la limitation des mandats ne saurait être rétroactive pour l'empêcher de se représenter. Donc, ils organisent d'une certaine manière une transition de 10 ans, en se disant que si on remet les compteurs à zéro, il gagnera. Mais ceux qui disent ça, malheureusement, veulent institutionnaliser la mauvaise foi parce qu'ils sont convaincus que si on obtenait une transition, ils gagneraient les élections toutes les deux fois. Et juste justement à côté, les opposants qui disent non. Si on le laisse organiser cette transition, il n'est même pas dit qu'il y aura une vraie alternance. Il pourra peut-être partir, mais ce sera encore quelqu'un de son parti qui pourra venir parce que justement, on compte sur la capacité à frauder du régime pour perpétuer le système. Donc, il y a ceux qui veulent que cette décision soit d'application immédiate parce qu'il n'y a pas de raison d'organiser une transition de 10 ans avec la même personne à la tête, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, c'est à ça que cela revient, une transition de 10 ans à partir de 2020, et ceux qui disent qu'il faut qu'ils partent tout de suite. Voilà, et c'est ça les deux termes de l'alternative, ou ils partent tout de suite, ou on organise une transition de 10 ans.
Oui, mais
Dire au peuple togolais d'accepter encore 10 ans de Yalima, c'est franchement lui faire une injure.
Oui, mais
c'est mon avis personnel.
Oui, qu'est-ce qui garantit que le président Faure, même s'il acceptait de rester ou bien d'assurer la transition pendant les 10 ans, qu'est-ce qui garantit qu'il ne va pas peut-être réviser la constitution pendant ces 10 ans?
Oui, donc il y a aussi ce risque-là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc vous comprenez pourquoi est-ce que l'opposition et une certaine partie de l'élite pensent que ça devrait être d'application immédiate, la limitation des mandats.
Ouais.
Et je pense que s'ils ne sont pas prêts à l'accepter, c'est le dernier barreau d'honneur, il y aura un bras de fer à partir de vendredi et on ne sait pas, il y aura encore des morts. Mais est-ce que vraiment ça vaut la peine encore de tuer pour un régime qui a eu 50 ans de bilan?
Ouais. Vous
veulent faire encore dans 10 ans qu'ils n'ont pas fait en 50 ans.
Vous, Victor Pudant Topanou, le praticien du droit, est-ce que vous ne pensez pas que le président Faure, juridiquement, a le droit de se présenter, même si on modifiait la constitution actuellement?
Mais écoutez, vous posez l'éternel débat entre la légalité et la légitimité. Vous savez, lorsque le président Blaise Compaoré entamait la procédure de révision constitutionnelle, il en avait le droit. Il en avait le droit. Et pourtant, le peuple a dit on n'en veut pas. On a vu la suite. Donc, si vous reposez le même débat au Togo, c'est comme si les Africains sont incapables de tirer les enseignements de l'histoire. Le problème qui se pose au Togo aujourd'hui n'est plus un problème de légalité. Si vous voulez la légalité pour le président Faure, vous l'aurez, vous pouvez encore l'avoir pour 50 ans. Ce dont il s'agit, c'est une question de légitimité. Est-ce que le peuple, aujourd'hui, continue d'adhérer aux idéaux de Faure pour les 10 ans à venir? Donc, il faut bien sérier les problèmes. Chaque fois que l'on me renvoie à la figure la question de la légalité, je dis, mais ils n'ont absolument rien compris. Quand on écoute le peuple, il n'y a que le peuple qui remet en cause la légalité. Et quand le peuple demande, il n'y a plus à lui opposer la légalité. La légalité, c'est dans un ordre normal, où tout le monde est d'accord, et où on se fixe des règles communes. Lorsqu'on n'est pas d'accord et qu'il y a un clan qui se fixe des règles pour se protéger, il est normal que les populations, à un moment ou à un autre, puissent dire « nous en avons assez ». Vous ne pourrez pas retirer au peuple le droit de la souveraineté. La souveraineté appartient au peuple. On ne peut pas le lui retirer en lui opposant une quelconque légalité. Ça n'a pas de sens. De toute façon, historiquement, c'est anachronique.
Ouais. Donc vous pensez que le rapport de force est en ce moment en faveur de l'opposition, donc des populations togolaises?
Mais ils sont en train de le construire. Et ce qui est extraordinaire dans la situation togolaise, c'est que l'opinion est toujours prête à accompagner les leaders. Ça veut dire que l'opinion a un problème avec le régime en place. Ils peuvent, à un moment ou à un autre, décrier tel ou tel leader, mais chaque fois qu'ils ont le sentiment qu'il y a un leader crédible qui leur demande de se mobiliser, ils le font. Ça veut dire que le fond est demeuré intact. Et la seule revendication, c'est de dire « nous avons assez de la dynastie Eyadema ». point bas, les Togolais n'ont pas deux autres revendications. C'est la seule. Et si on n'est pas capable de les écouter, de les accompagner, à ce moment-là, on va tous se les mettre à dos.
Ouais.
Depuis... On va tous se les mettre à dos. Techniquement, moi, je pense, je n'ai rien contre le président Faure. Au contraire, je trouve qu'il a travaillé. Beaucoup de Togolais le reconnaissent. Mais la seule chose que les Togolais vous disent, c'est qu'on en a marre. Et ils sont convaincus que n'importe quel autre à sa place serait aussi bien. Voilà, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez? Personne n'est né président, tout le monde devient président. Et à la suite d'une élection, on a quelques mois pour porter le manteau de la fonction. Et puis après, la vie continue. Il faut cesser de faire croire qu'il y a des gens qui sont nés pour être président, d'autres qui ne le sont pas.
Depuis la mémorable manifestation d'août de cette année, eh bien, on n'a pas du tout entendu les dirigeants africains, notamment ceux d'Afrique de l'Ouest, mis à part Olusegun Obasanjo, l'ancien président nigérien, et Jerry Rawlings, l'ancien président du Ghana. Qu'est-ce qui explique ce mutisme des chefs d'État d'Afrique de l'Ouest?
Ben, ce qui l'explique, c'est le sacro-saint principe du droit international, de la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un pays, et jusqu'à ce que le couvercle saute, et à ce moment-là, ils courent comme des pompiers. Bon, mais on n'a pas le choix, on est bien obligé de respecter ce principe-là. Mais en même temps, l'absence de soutien formel démontre effectivement aussi un processus d'isolement de ce régime. Il y a quelques années, on aurait vu dans le journal de 20h au Togo des messages de soutien venus de tel président voisin, venus de tel autre président voisin, mais là, il n'y en a plus. Au contraire, même si aujourd'hui ce sont les anciens présidents, notamment Obasanjo et puis au Nigeria, et puis Jerry John Rawlings au Ghana, qui dénoncent et qui soutiennent le peuple sur les réseaux sociaux, qui sont devenus la grande mode du moment, à l'évidence, il y a un soutien entier, franc et massif vis-à-vis du peuple. Donc on ne peut pas continuer à penser que le régime, après l'absence de soutien ou de dénonciation formelle des pays voisins, soit considéré comme un soutien. Au contraire, il est considéré comme un isolement.
Ouais, donc ce silence des pays voisins et même de la communauté internationale vaut un soutien tacite des revendications de l'opposition?
Mais écoutez, je ne suis pas sûr qu'il en soit ainsi. Quand j'ai vu la dernière fois, hier ou avant-hier, les responsables de la CEDEAO, notamment le président de la commission,
Marcel Dessouza,
qui n'est pas totalement neutre dans la situation politique togolaise, puisqu'on le soupçonne d'avoir épousé la petite sœur du président togolais. Donc souvent, on ne le trouve pas très objectif en ce qui concerne les affaires togolaises. Il n'en demeure pas moins que le fait pour lui d'avoir demandé, d'avoir dit qu'il apportait son soutien au processus de dialogue enclenché par l'opposition et la majorité semble quand même un signal suffisamment fort.
D'accord. Et dernière question, est-ce que le pouvoir Yadema, dans ce contexte, peut user de la violence si jamais il se retrouve dos au mur?
Pardon, j'ai pas bien entendu.
Je dis, si jamais le pouvoir Yadema se retrouvait dos au mur, est-ce qu'il serait contraint d'user de la violence dans le contexte actuel?
Mais il aura voulu, le président Faure a eu quoi? Disons 12 ans depuis qu'il est au pouvoir pour faire les réformes politiques et institutionnelles. 12 ans. Il ne l'a pas fait. Et on ne peut pas taxer l'opposition d'être resté les bras croisés. Ils ont manifesté de façon régulière. Rien n'a été fait. Alors, si aujourd'hui il estime qu'il a le dos au mur, il aura voulu. Mais en tout état de cause, si moi j'ai un conseil à lui donner, c'est qu'il prenne de la hauteur, qu'il accepte de négocier son départ et qu'il éviterait ainsi la violence au pays. Mais s'il opte pour la violence, il sera encore beaucoup plus isolé. Et à ce moment-là, les soutiens explicites des pays étrangers ne manqueront pas. Et ce serait bien dommage qu'un jeune comme lui puisse terminer de cette manière-là. En tout cas, je le souhaite, ni pour lui, ni pour le Togo.
On sait que les peuples béninois et togolais sont des peuples frères, comme on le dit de façon triviale. Pourquoi est-ce que le Bénin n'a pas réussi à influencer positivement, hein, ou bien inoculer la culture démocratique, au peuple togolais?
Non, 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 non. Vous pouvez pas dire ça. Vous pouvez juste dire que la qualité de la classe politique peut être différente d'un pays à l'autre. Mais les aspirations des peuples sont toujours les mêmes. C'est des aspirations à la liberté, à plus de liberté, à plus de responsabilité. Mais malheureusement, les classes politiques ne répondent pas toujours aux aspirations des peuples. Et donc, je pense que ce n'est pas au niveau des peuples qu'il faut poser le problème, il faut le poser au niveau de la classe politique.